Dans l'histoire de la navigation en solitaire, ils sont 7 à avoir fait le tour du monde à l'envers. Mais le seul qui l'ait réalisé sur un voilier de moins de 50 pieds et sans moteur, c'est Stéphane Narvez. En avril, le marin repartira pour 16 mois à bord de l'Oikos pour sa mission intitulée 4 SMS, 4 saisons dans les mers du Sud. 4 fois le tour du monde en solitaire et sans escale et 24 000 relevés de température et de salinité qui viendront aider les scientifiques de l'IFREMER et du laboratoire de physique des océans à évaluer plus précisément l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Alors que le voilier rentre dans sa phase de préparation, nous avons rencontré Stéphane Narvez sur l'Oikos, au port d'Antibes.
Partir dans les mers australes, là où il y a très peu de navigation, et puis rester 12 mois, rester une année complète, faire les 4 saisons, pour vraiment avoir une contribution sur une année complète, les mesures de température et de salinité pour les Fremer pendant un an.
Ça, ce sont les deux choses que vous allez relever de manière automatique, la salinité de l'eau et la température à la surface de l'eau.
Exactement, c'est automatique, c'est deux capsules immergées autonomes en alimentation, en électricité et en enregistrement, donc il y a un petit dispositif qui est complètement autonome. Donc il y a un appareil comme ça pour la température et un appareil pour la salinité, donc ces deux capsules seront fixées sur les œuvres vie du bateau, c'est-à-dire l'eau à moins de 2 mètres, puisque le tirant d'eau du bateau c'est 2 mètres, donc plus profond ça sera 2 mètres. Et ça sera partir d'Antibes, revenir à Antibes et puis faire ce voyage et cette contribution nécessaire dans une région où il n'y a pas beaucoup de navigation.
C'est ce qui a intéressé IFREMER, c'est pour ça qu'ils vous ont donné ces deux capsules.
C'est la motivation première de ce voyage évidemment, et puis la deuxième c'est se faire plaisir parce que j'adore naviguer et puis encore plus dans cette région.
Mais vous partez seul ?
Alors c'est une aventure en solitaire évidemment, c'est une aventure humaine pour ça aussi, c'est explorer la solitude, explorer le voyage comme ça au long cours et en solitaire, donc ça c'est intéressant. À ma connaissance, on est jamais, rarement resté aussi longtemps seul en mer comme ça, sans faire d'escale, parce que c'est un voyage sans escale. Donc il va falloir partir avec l'autonomie pour 16 mois, donc il y a une gestion d'autonomie, que ce soit pour les vivres, que ce soit pour donc, l'alimentation, l'eau, donc il faut gérer tout ça pendant 16 mois aussi.
Alors justement, pour ce qui concerne déjà, ne serait-ce que les transmissions radio, tout ça, il vous faut de l'énergie, vous avez des petits panneaux solaires?
Exactement, là sur le tour du monde à l'envers, j'ai pu tester cette installation, uniquement des panneaux solaires pour alimenter donc l'électronique. Alors l'électronique, c'est la radio, c'est le positionnement, c'est les dispositifs de sécurité en mer pour voir et être vu. Donc ces appareils fonctionnent en autonomie complète avec les panneaux solaires, donc il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'énergie fossile à bord pour tout ça, il y a uniquement des panneaux solaires. Alors pour 4 SMS, il y aura peut-être un hydrogénérateur en plus qui sera fourni par Wattensea, le nouveau partenaire qui est à La Rochelle, qui me prêtera donc au moment de partir un hydrogénérateur pour ce voyage. C'est un modèle croisière, on va dire, pour des bateaux qui ne sont pas rapides. C'est un matériel fiable. Et...
Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Un peu plus d'énergie, plus d'autonomie, plus de sécurité ?
Alors ça m'apportera plus d'énergie, évidemment, parce que j'aurai plus de consommation, puisque j'ai prévu de rajouter un radar et des transpondeurs pour être vu en cas de défaillance de l'AIS, parce que sur mon premier voyage j'ai eu une panne d'AIS qui m'a mis un petit peu en des périodes un petit peu de tension au niveau de la veille, du trafic, etc. Donc je voudrais pas renouveler ces petits déboires. En tout cas, s'il y a une panne d'un appareil, en avoir un autre qui puisse apporter une forme de secours. Et donc tous ces appareils en plus vont être consommateurs d'énergie, et pour l'équilibrer il faudra une production supplémentaire, et je compte sur l'hydrogénérateur pour ça.
Et pour l'alimentation humaine, pour la nourriture, comment ça se passe quand on part 18 mois?
Alors c'est des conserves, après c'est des fruits secs, c'est du lyophilisé. Et puis une petite nouveauté pour 4 SMS, je vais essayer de faire pousser des radis, des petites choses fraîches qui m'ont manqué sur la fin du voyage. Donc des radis, des carottes, et puis donc j'ai des petits germoirs, des petites serres installées derrière les plexiglas. Donc le peu de lumière que je pourrai avoir, ça viendra apporter l'énergie pour ces petites plantes qui me feront un petit apport de fraîcheur quoi, hein, sur 16 mois de navigation. Je pense que ça va égayer un petit peu mes plats.
Parce qu'à aucun moment vous allez toucher terre pour vous ravitailler ou quoi que ce soit.
Si on transpose un petit peu le bateau comme une planète, voilà, on part avec des ressources et puis on essaie de les gérer. Et c'est tout le principe de l'électricité, être en autonomie complète. Quand les photons peuvent convertir tout ça en courant électrique, bah c'est merveilleux. Pourquoi mettre un moteur quand ces appareils remplissent leurs fonctions? Et d'un autre côté, donc apporter des économies, limiter au maximum les consommations pour que l'équilibre se fasse. Donc l'autonomie, c'est ça, c'est trouver le bon équilibre. Et c'est un petit peu ce qu'on doit chercher là, au niveau de la planète, quoi. Essayer de trouver cet équilibre pour pouvoir se dire que notre vaisseau spatial peut faire un voyage éternel. L'âme du marin solitaire, c'est pouvoir rester en mer le plus longtemps possible et donc communiquer effectivement cette sensibilité sur la nature. Il faut savoir que quand on est seul, on n'est pas seul, quoi, on est entouré de la nature. Et au bout de quelques mois de navigation en solitaire, comme ça, on se connecte à notre environnement. Et on est beaucoup plus à l'écoute de tout ça, beaucoup plus sensible à la pollution, à tout l'impact de la civilisation qu'on peut trouver au milieu du Pacifique ou de l'Indien, dans des déserts océaniques, où on voit encore la trace de l'homme. Alors il y a ce qu'on voit et puis tout ce qu'on ne voit pas, hein, de la partie immergée de l'iceberg, tout ce qui peut être chimique. Évidemment, ce voyage, il est là aussi pour essayer de sensibiliser à cet aspect-là, quoi.
Il va y avoir quelques classes de Saint-Laurent-du-Var qui vont vous suivre.
Alors sur les défis GEC, le tour du monde à l'envers, il y avait une classe. Aujourd'hui, il y a une classe à Saint-Laurent-du-Var, une école, Michelis 2. Et là, il y aura l'école de la gare également à Saint-Laurent-du-Var. Et puis j'essaie de voir, comme le bateau est en Tibes, hein, c'est un petit peu l'appel que j'ai lancé quand le bateau est arrivé, essayer de connecter aux écoles et aux collèges d'Antibes.
Pour qu'ils puissent vous suivre, en apprendre davantage sur la mer, sur les dangers qu'elle encourt.
Complètement, oui, pour leur apporter un petit peu la vision, une autre vision du monde, parce qu'on a la vision, on va dire, sociale, de ce qu'on fait, de nos loisirs, de tout ça, mais la planète c'est aussi autre chose, c'est la nature, c'est s'évader comme ça aussi, c'est un plaisir de partir comme ça naviguer, donc peut-être aussi communiquer ce plaisir de la navigation, et puis ben voilà, surtout attention à la planète, quoi.
Et puis pour vous en plus, ça vous fait communiquer un petit peu avec des êtres humains une fois par semaine, un petit coup de téléphone, ça peut être une planche de salut, quoi.
Complètement, c'est un vrai bonheur de pouvoir donner des informations, se dire ben voilà, je suis là, j'envoie des choses et on les reçoit. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir dire n'importe quoi. Hein. C'est le plaisir d'avoir un coucher de soleil extra avec des nuages fantastiques et puis d'écrire, envoyer un SMS et puis mettre ça sur Internet et puis communiquer au plus grand nombre. Parce que c'est ça, hein, l'idée de contacter les écoles. Il n'y a pas de limitation géographique. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut se sentir concerné, dire que c'est bien et que pour que ce soit bien demain, pour que nos enfants apprécient faire le même voyage, qu'ils retrouvent les océans en forme, quoi, avec de la vie, avec des baleines, avec des dauphins, avec des calamars qui s'échouent sur le pont et qu'on met dans la cocotte. Et merci la nature de m'apporter ça. C'est un vrai cadeau, c'est un vrai bonheur. Donc espérer qu'on pourra faire ça et que ça se passera de la même manière dans 50 ans.
Quels sont justement les impacts néfastes de l'homme sur les océans et les mers que vous avez pu voir? Quels sont les endroits qui vous ont un petit peu marqué vis-à-vis de ça?
Ben, ce qui est marquant, c'est que dès qu'on approche des côtes, on voit tout de suite beaucoup plus d'objets flottants, dérivants, etc. Donc ça, c'est des plastiques.
Du plastique?
Des plastiques, des containers, des coffres, des jerrycans, des bouteilles d'eau. C'est contrariant. C'est pas une pollution dramatique en soi, on va dire. Ça met des années, des dizaines, des cinquantaines d'années à se dégrader. Il y a tout ce qu'on voit pas, en fait.
Oui, parce qu'ils se dégradent en micro-microparticules qu'on voit plus, mais qui sont toujours là, qui sont absorbés par les poissons que l'on mange et ils restent dans la chaîne alimentaire.
C'est vrai que, bon, après, on constate que tout ça, ça disparaît pas, quoi. Et puis ça fait des dégâts, quoi, au passage. On est très loin de tout ça, puis finalement pas tant que ça, quoi. Parce que quand on fait le tour, on s'aperçoit qu'on est partout, en tout cas par le biais de nos déchets et de toutes nos négligences. La planète, elle est toute petite, même s'il faut 8 mois pour faire le tour à l'envers ou 6 mois pour faire le tour en bateau sans polluer, parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile sur le bateau, donc on ne pollue pas. Et bien on voit qu'il y a une pollution de toute notre activité de terrien sur l'océan. On est voisins et on a besoin de cet océan parce que c'est fragile. L'océan, le phytoplancton des mers australes, c'est la moitié de l'oxygène qu'on respire sur la planète. Et donc cet équilibre, il a l'air stable, mais on ne sait pas à quel moment il peut basculer, à quel moment on va être vraiment en difficulté, on ne sait pas. Donc on est dans une phase d'équilibre qu'il faut quand même préserver. Il faut faire attention, cet équilibre, on ne sait pas son niveau de fragilité. Et le jour où ça basculera, on a vu qu'au niveau atmosphérique, le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique est lié donc à cette couche-là, atmosphérique. Et donc on sait aujourd'hui que limiter les émissions de CO2, c'est limiter l'effet de serre. Aujourd'hui, il s'agit de faire un maximum de mesures et d'investigations pour mieux comprendre tout ça, mieux comprendre le climat. Et mieux comprendre, c'est mieux se protéger. Voilà, c'est ce que je vais faire un petit peu à ma mesure, en essayant d'apporter des données aux scientifiques qui pourront nous expliquer, à nous profanes, comment ça marche et comment il faut essayer de se comporter pour que ça continue de fonctionner longtemps.
Alors vous qui avez déjà traversé pas mal de mers, d'océans, est-ce que vous avez vu beaucoup de cétacés?
Alors des baleines, j'ai dû en voir une dizaine au total. C'est très simple, en descendant de l'Atlantique, j'en ai vu deux qui remontaient, à vitesse de croisière, hein, très vite.
Quel genre de baleines?
Je pense que c'est des baleines à bosse qui remontaient, je n'ai pas resté trop loin pour pouvoir les identifier. Ensuite, en redescendant sur la Nouvelle-Zélande, j'ai fait une rencontre formidable. Donc une baleine bleue qui est venue nager à côté du bateau, qui est venue à la rencontre du bateau, alors ça c'est merveilleux.
Elle était plus grosse que le bateau.
Elle faisait deux fois la longueur du bateau, c'était fantastique. Donc ça, ça reste un moment marquant. Là, le cœur il fait boum, quoi. C'est une baleine qui vient à la rencontre du bateau, donc c'est la rencontre de deux solitaires, puisqu'elle était toute seule. Et donc il se passe forcément un petit contact, quoi, un échange. Donc ça c'est la troisième baleine rencontrée. Et puis dans l'Indien, deux autres baleines. Alors bon, elles avaient l'air d'être un petit en parade amoureuse. Je ne vais pas aller les déranger. J'ai continué ma route, elles étaient au loin. Et puis en Méditerranée. Alors en Méditerranée, c'était un cachalot. C'était au nord des Baléares. Puis après, c'est des rencontres avec des dauphins, voilà, en permanence. Régulièrement, beaucoup, beaucoup de dauphins. Alors pour tous les passages de cap, j'ai eu droit à un accueil avec quelques dauphins, que ce soit le Cap Horn ou Bonne-Espérance ou en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a de la vie dans l'océan. Donc, il y a des tortues de mer. Donc, un jour de pétrole, il y a une tortue qui est venue tout près du bateau là, pour voir un petit peu l'animal, ce que c'était. Un peu intrigué par les couleurs, peut-être. Peut-être le message aussi, je ne sais pas si elle a bien compris.
Qu'est-ce qui est écrit sur la coque?
Il y a une petite prise de courant connectée avec le soleil. C'est un petit peu le message aussi, hein. Transporté, véhiculé par le bateau. Et c'est peut-être pour ça que tous ces animaux viennent voir le bateau aussi, je ne sais pas.
Ils sentent que vous leur voulez du bien.
Peut-être, ouais.
Vous pouvez suivre la préparation du projet 4SMS puis le tour du monde de Stéphane Narvez sur le www.teamdefi.com.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.